Merci Jean-François, merci Rachid pour ton accueil. Bonjour, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de venir ici à Bordeaux et à la DEA. C'est même très impressionnant de voir que, après toutes ces années, vous arrivez à maintenir la flamme, à tirer des jeunes et que les moins jeunes restent fidèles. Donc il doit se passer quelque chose d'intéressant ici. Merci aussi de me donner l'occasion, non pas de faire une exégèse sur le principe de précaution. Je voudrais tout simplement, en fait, vous parler de ce qu'il a été comme réalité pour moi dans l'exercice de mes fonctions. Et je suis assez heureux de le faire parce que je dois dire qu'en ce moment, il y a un certain nombre de propos qui me hérissent le poil. C'est-à-dire que, bon, d'une certaine façon, c'est très bien. Beaucoup de gens parlent du principe de précaution et c'est un des grands débats de notre société au début du 21e siècle et c'est bien. Mais on a des donneurs de leçons, par exemple. Je lisais hier soir dans le train, après avoir fait mon topo, un récent bouquin, L'inquiétant principe de précaution. Quand on voit, on lit ça, on voit que c'est des gens qui n'ont jamais pris une décision de leur vie, quoi. Et qui nous expliquent doctement que le principe de précaution va nous induire des dépenses extravagantes qui menacent les générations futures. Il se trouve, vraiment, je l'ai lu après avoir bouclé mon topo, il se trouve que les exemples que je vais prendre vont vous montrer tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en appliquant le principe de précaution, je pense que non seulement on a protégé la santé, mais qu'on a fait faire des économies. Je ne vais donc pas du tout vous en parler, ni au plan philosophique, ni au plan sociologique, ni au plan des idées. Je n'en ai pas la compétence. Je voudrais avant tout partager l'expérience que j'ai eue et avec l'ensemble de mes collaborateurs, au niveau central comme déconcentré, de ce principe, avant même d'ailleurs qu'il entre, qu'il soit promu comme valeur constitutionnelle en étant adossé dans l'article 5 de la Charte de l'environnement. Mais de toute façon, avant ça, il y avait la loi de 1995 et puis il y a le traité de l'Union européenne qui reprend qui fait du principe de précaution un principe de politique européenne. Donc là-dessus, ce n'était pas vraiment nouveau. Je voudrais faire ce retour d'expérience pour qu'on discute, et si on a plus de temps pour le faire, c'est très bien, des problèmes posés par son application. Parce qu'on peut être favorable au principe de précaution, et vous avez compris que je le suis, je préfère mettre les cartes sur la table d'emblée, mais tout en reconnaissant que son application pose des problèmes. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des spécificités françaises, notamment deux. Alors ça, elles nous concernent tout particulièrement. La première, c'est que nous sommes effectivement le seul pays à avoir fait de la précaution une valeur constitutionnelle. Et la deuxième, c'est que nous sommes le pays qui a donné à la précaution un contenu essentiellement sanitaire, là où à peu près partout ailleurs, le principe de précaution est un principe de politique environnementale en général. Ça mérite réflexion. Alors, je ne veux pas vous le définir, je pense que voilà, nous partageons tous ici, d'abord il y a plusieurs définitions, il y a même plusieurs conceptions. Mais enfin, si on veut rester sur les choses simples, c'est un principe d'action dans l'incertitude. On s'est aperçu par le passé que, à force d'attendre les preuves de l'existence d'un danger, quand on les a rassemblées, il était trop tard. Et donc c'est quand même un grand progrès de l'esprit humain et de l'amélioration des conditions de vie sur cette planète que de se dire à partir de quel moment je dois prendre en considération une hypothèse et je dois agir, même si l'ensemble des preuves nécessaires pour prouver l'existence d'un danger ne sont pas réunies. Je dis que c'est un progrès parce que fondamentalement, de quoi il s'agit ? Il s'agit de refuser la fatalité. Il s'agit d'être proactif. Et bon, j'aimerais bien savoir écrire comme Stern, mais dans ce paragraphe que vous lisez, il dit absolument tout ce qui est important. Si nous agissons comme si la science avait raison et que, in fine, les risques s'avèrent moins importants, ce sera de toute façon une bonne chose. Nous aurons découvert de nombreuses technologies utiles. Il parlait du climat, évidemment. Nous aurons un monde plus propre, nous aurons sécurisé nos approvisionnements énergétiques. En revanche, si nous agissons comme si la science se trompait, nous nous serons mis dans une position dangereuse dont nous serons peut-être incapables de sortir. Les sceptiques ont le droit de s'exprimer, certes, et de débattre, mais pas celui d'avoir des arguments mal fondés et confus. Alors, bon, on enseigne à nos étudiants, je pense que vous le dites, je suis sûr, à peu près dans les mêmes termes, que la prévention s'adresse à des risques qui sont démontrés, quantifiés, la précaution à des dangers qui restent hypothétiques. En fait, c'est pas aussi évident que ça, et c'est une des choses dont je vais discuter à travers trois exemples que j'ai personnellement vécu. L'un concerne l'amiante, le deuxième, la transmission transfusionnelle du prion, l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, nouveau variant, et le troisième concerne les nanoparticules que Rachid a d'ailleurs évoquées. Alors, sur l'amiante, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'histoire, mais quand en 1996, l'amiante et son utilisation est définitivement interdite en France, il y a un certain nombre d'exceptions, et une de ces exceptions, c'est les automobiles qui étaient en circulation. On ne touche pas à la voiture des Français trop fort, trop vite. Alors on a dit, pendant 5 ans, il va y avoir un moratoire là-dessus. En 2001, la DGS revient auprès du cabinet de l'époque, qui était visiblement pas très pressé de traiter ce sujet, et il y a un décret qui prolonge d'un an ce moratoire. Et puis on se retrouve en 2002... j'y étais à l'époque, c'est Lucien Benahim qui était le directeur. Et il faut bien prendre une décision sur ce que l'on fait des 5 millions de véhicules qui sont alors amiantés et en circulation. Où il y avait de l'amiante, possiblement dans les plaquettes de frein, encore que 5 ans après, on espère que quand même les plaquettes avaient été changées au moins une fois, mais enfin bon. Mais il y en avait dans les embrayages aussi. Et ça, les embrayages, ce ne sont pas des pièces mécaniques que l'on change aussi souvent que cela. Alors, on se retrouve évidemment chez le Premier ministre en réunion interministérielle qui demande classiquement, qui fait un tour de table entre les différents ministères pour avoir leur position. Et j'étais à cette réunion interministérielle et quand le conseiller du Premier ministre se tourne vers la santé, il dit « Bon, bah vous, de toute façon, on sait bien, vous êtes... vous allez nous dire qu'il faut absolument arrêter tout ça et qu'il y a de l'amiante en circulation. » Et je lui dis, non, ce n'est pas la position du ministre. La position du ministre, c'est qu'elle nous a demandé quel était le risque et quelle était l'ampleur du risque si on laissait ces voitures circuler jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire environ encore 5 ans en plus de cela. Conseiller, Premier ministre, oui, mais enfin, écoutez, on n'est pas là pour faire de la recherche. Il faut qu'on prenne une décision. Vraiment, ce n'est pas très compliqué parce que les dangers de l'amiante, on les connaît. Les expositions, on a un peu regardé, l'INRS a fait des études, notamment en milieu de travail, qui nous permet d'avoir une idée de ce que sont les expositions. Les relations dose-effet, bon, on les a pour l'amiante à peu près aussi bien qu'on ne pourra jamais l'avoir. Et donc, il faut qu'on fasse quelques scénarios et qu'on voit le nombre de cas excédentaires produits par cette exposition. Et tout le monde regarde la santé et nous dit, non, mais attendez, non, enfin, non, soyons sérieux, quoi. Il faut qu'on prenne une décision là, maintenant. Là, ce que vous nous dites, c'est un programme de travail de plusieurs mois, voire plusieurs années. On ne peut plus attendre. On a déjà dérogé pendant 1 an. Ça suffit. Et je leur dis, donnez-moi 3 semaines. Stupéfaction à Matignon. 3 semaines. Dans 3 semaines, vous revenez et vous nous donnez la réponse. On va saisir l'Institut de veille sanitaire. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Moi, je pourrais le faire, mais ce n'est pas mon rôle. Et on va saisir l'Institut de veille sanitaire et on revient dans 3 semaines. Dans 3 semaines, hein, vous avez vraiment dit dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines. Bon, ben alors très bien. Je suspends la réunion, on revient 3 semaines après. 3 semaines après, on revient avec ce rapport de l'Institut de. Vraiment 3 semaines, c'est-à-dire que là, là, ils étaient. Oui, non, ça a été 3 semaines après, c'est tombé. Et donc, une modélisation de l'Institut de veille sanitaire. Ce n'est pas la peine qu'on rentre dans les détails ici. Grosso modo, le scénario le plus probable, c'était que d'ici à 2015, je vous rappelle qu'on est en 2002, il y aurait 14 cas de mésothéliome liés à cette exposition et dans un scénario qui était assez, je dirais, conservateur, assez précautionneux. On peut considérer que c'était vraiment l'excès de risque maximum. Et la position de la ministre à l'époque, c'était que on n'allait pas bouleverser la vie des Français, surtout que ceux qui avaient les plus vieilles voitures, c'était ceux qui étaient les moins riches. Pour un niveau de risque aussi faible. Donc elle a considéré comme étant faible. Et donc 3 semaines après, on s'est retrouvé à Matignon et voilà, 14 cas, la position de la ministre, c'est que il faut s'abstenir. Restupéfaction dans la salle. Le ministère de la Santé devient-il laxiste? Et donc, on explique la position du ministre. Et le conseiller du Premier ministre dit, bon, alors, d'accord, très bien. Et est-ce que le ministère de la Santé est prêt à prendre en charge la communication publique sur ce dossier pour expliquer que, malgré l'émotion liée aux questions d'amiante, sur les voitures, on ne va rien faire? Genre, vous voyez, quoi. Est-ce que vous prenez le risque de faire? On a dit, ben, oui, on prend le risque de la communication. On a vu les gens de l'Andeva, on s'est longuement expliqué avec eux, on a vu un certain nombre d'experts, on en avait discuté avec le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Et on a dit, ça a été d'ailleurs pour moi une grande leçon que j'ai réutilisée par la suite, on a dit, écoutez, voilà ce qu'on propose, mais vous savez, si vous pensez que c'est une position qui est trop laxiste, on n'est pas buté. On pourrait durcir si la société française trouve que on n'est pas suffisamment précautionneux. Ça, c'est le premier exemple. Il y avait quand même un certain nombre. Bien sûr, alors c'est l'amiante. On pourrait dire, écoutez, c'est un exemple classique de prévention quand même. Mais là, vous voyez quand même, c'est un cas limite. Parce que qui était exposé vraiment à l'amiante des embrayages. On peut imaginer qu'il y a toujours quelques fous qui passent leur week-end à monter, démonter leur embrayage parce que ça les amuse. Bon, d'accord. Mais combien sont-ils? On ne le savait pas. Quelles étaient exactement les expositions? On ne le savait pas. D'ailleurs, on a été suivi sur cette position, sauf par le ministère du Travail, qui, à juste titre d'ailleurs, avait souligné que le grand problème de cette abstention décisionnelle, c'était pour les garagistes. Et effectivement, avec notre appui, une action d'information, de formation sur le risque amiante lié au véhicule a été lancée. Ça a été une condition qu'avait mise, à juste titre, le ministère du Travail. Donc il y avait quand même pas mal d'incertitudes et il y avait pas mal d'enjeux. Et là, on s'en sort relativement bien, facilement, et c'est relativement facile de trouver un consensus d'action parce que, au-delà de l'émotion, on mesure un risque. Donc on commence par un cas facile. Alors, un des cas les plus difficiles que j'ai eu à gérer, et bon, je savais, heureusement que je m'y étais préparé, je savais que ça arriverait. Et je savais que c'était certainement, vous savez, vous vous rappelez que j'ai pris mon poste au décours de cette catastrophe caniculaire, et une des premières questions que je me suis posée, c'est quel serait le scénario catastrophe qui pourrait me mettre en situation difficile et au-delà de moi, la Direction générale de la Santé et le ministère. Et j'avais en tête la transmission transfusionnelle du prion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on croisait la grande crise de sécurité sanitaire des années 80 et la grande crise de sécurité sanitaire des années 90. Donc et ce n'était pas invraisemblable. D'ailleurs, il y avait déjà dans la littérature à cette époque, notamment anglaise, des interrogations sur le fait que certains cas britanniques de Creutzfeldt-Jakob auraient pu être liés à du prion reçu par transfusion. Et un jour, Gilles Brucker m'appelle, il me dit « J'espère que tu es assis, j'ai vraiment une très mauvaise nouvelle. On vient d'apprendre que le 8e et 9e cas de Creutzfeldt-Jakob en France ont été donneurs réguliers de sang avant qu'on sache qu'ils étaient malades. » Et évidemment, il n'y a pas de test, comme vous le savez. Donc, c'était absolument, absolument inévitable. Bon, j'ai d'ailleurs rigolé un peu nerveusement. Il m'a dit, bon, ben, je vois que tu le prends bien. Je dis, je le prends bien parce que ce scénario, je l'avais en tête depuis très longtemps. Et c'est pas complètement une surprise. Cela dit, on est effectivement dans la difficulté. La difficulté, c'était pas sur les PSL, sur les produits sanguins labiles, parce que là, le risque était en quelque sorte avéré. L'été d'avant, l'été 2003, il y avait eu des publications dans le BMJ, notamment, qui avec deux cas qui étaient liés à des transmissions, à des transfusions de globules rouges. Et donc là, l'action a été immédiate. D'ailleurs, on voit les progrès de sécurité sanitaire qui ont été faits dans ce pays-là, parce que on appelle le directeur général de l'AFSAPS et le lendemain, on sait que les gens qui ont reçu les 22 personnes qui avaient reçu des globules rouges de ces deux donneurs sont identifiés. On sait que la moitié d'entre elles sont encore vivantes. Et on a l'adresse de leur médecin, voilà, en moins de 24 heures. Voilà. Donc là, c'est quand même un progrès absolument remarquable. Donc là, le problème n'était pas là. Il fallait agir, on a prévenu les médecins. On n'était au demeurant pas extrêmement inquiets là-dessus, parce que si ces personnes avaient été transfusées en globules rouges, c'est qu'elles étaient très malades. Et le risque majeur pour ces personnes, c'était pas le prion. Mais il fallait les prévenir quand même, et avec leur médecin, on l'a fait. Maintenant, comme vous le savez, on ne fait pas que des globules rouges à partir des prélèvements sanguins. On fait des médicaments dérivés du sang. Et ça, c'est du risque sériel. C'est de la fabrication industrielle. Et j'ai évidemment demandé à l'AFSAPS d'estimer, à partir des dons de ces deux malades de Creutzfeldt-Jakob, combien de personnes pourraient être concernés. Et on est passé rapidement de 1000 à 10 000, à 20 000, à 30 000 et à 50 000. Et là, on avait une décision qui devenait une vraie décision de santé publique. pas une décision individuelle à prendre vis-à-vis de patients qui avaient été exposés, une vraie décision de santé publique. Et j'ai dit, pour prendre. Alors, le ministre est évidemment très inquiet, ça, vous pouvez l'imaginer, on le serait à moins. Et j'ai dit qu'il fallait évaluer le risque. Ce que et l'AFSAPS et l'AFSA m'avaient déconseillé de faire en disant on n'a pas les éléments. Et je les ai un peu forcés. Je leur ai dit, écoutez, je sais bien qu'on est face à un océan d'incertitudes, faites des hypothèses. Faites des hypothèses et justifiez. Oh, bah, non, vous ne pourrez pas les justifier, mais consignez-les. Faites des hypothèses explicites et faites-les du mieux que vous pouvez. Mais quand même, vous avez une base pour réfléchir, c'est qu'on a un niveau d'exposition de la population anglaise et un nombre de cas britanniques et un niveau d'exposition de la population française et un nombre de cas français. Vous avez une base ténue, certes, mais vous avez une base pour la modélisation modélisée. Je vous passe sur les détails. Il se lance courageusement, courageusement là-dedans. Le ministre était très sceptique. Et j'ai fait quelque chose que tout le monde m'avait déconseillé de faire, mais j'ai prévenu les journalistes. Non pas en conférence de presse, mais j'ai invité les journalistes leaders à venir me voir et je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit, écoutez, voilà, soyons clairs, vous pouvez alarmer le pays. Le prion et les transfusions, vous voyez ce que vous pouvez faire avec. Si vous le bon, on vous donne l'information, parce que de toute façon, si on ne vous le donne pas, elle pourrait fuiter, ce serait encore pire. Qu'est-ce que vous voulez? On est là tous ensemble à devoir assumer cette situation, on n'a rien à cacher. Mais je ne suis pas prêt aujourd'hui à prendre une décision, je vous le dis. Ou alors, ça va être une décision qui va bouleverser la vie de au moins 50 000 personnes. C'est-à-dire qu'on va aller les trouver. C'était moins facile qu'avec les globules rouges, mais néanmoins envisageable. Et on va aller les inquiéter. Et on va leur dire, vous avez reçu des médicaments dérivés du sang et qui peut-être contenaient du prion pathogène. Et puis quoi? Et puis quoi? Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de test de dépistage. Donc, il n'y a pas d'urgence de sécurité sanitaire. J'ai mis quasiment le marché en main aux journalistes. Je leur ai dit, écoutez, regardez, moi, on met les choses sur la table, mais est-ce que vous pouvez nous laisser 3 mois? Est-ce que vous pouvez nous laisser 3 mois pour voir si on peut cerner ce risque-là? Et contre toute attente, ils ont très bien réagi. Ils ont dit, un, d'abord, on ne peut pas cacher l'information. Vous nous l'avez donnée, on ne peut pas la garder pour nous, donc on va la publier, mais on va la publier de façon technique. La deuxième chose qu'on vous demande, c'est mettez-nous tous sur le même plan d'égalité. Parce que nous, on va se faire engueuler, et j'ai appris beaucoup de choses ce jour-là, on se fera engueuler par notre rédacteur en chef, si ayant accepté de jouer ce rôle-là, on se fait griller. Et donc, je leur ai donné l'assurance. Et j'ai obtenu ce moratoire de 3 mois, en fait 4, pour que les équipes de l'AFSA, de l'AFSAPS, de l'Institut de veille sanitaire, travaillent tranquillement et sortent ça. De ce travail extraordinaire qui a été fait, par sa complexité et sa rapidité, j'avais sorti cette note que j'ai envoyée en février 2005 au ministre, sur laquelle on avait longuement travaillé avec Yves Coquin, bien sûr. Et vous voyez dans lequel on liste les principales incertitudes scientifiques et on fait un certain nombre d'hypothèses que j'avais demandé d'être des hypothèses précautionneuses. Par exemple, toute charge infectieuse ou fraction de charge infectieuse dont le produit administré est possiblement contaminante pour les receveurs. Il y a un effet cumulatif possible à recevoir des quantités inférieures à la dose infectieuse non fractionnée, ce que les biologistes nous disaient être peu vraisemblable. Mais c'est une hypothèse de travail que nous avons retenue parce qu'elle était, elle était précautionneuse. On a, c'est pas la peine de rentrer dans les détails techniques, on a réussi avec cette démarche et en faisant vraiment un pire scénario avec les hypothèses les plus défavorables, arriver à estimer un niveau de risque qui nous semblait, alors non pas nul, mais quand même suffisamment faible pour qu'on n'en fasse pas un standard de sécurité sanitaire. Si on se mettait à gérer la sécurité sanitaire avec des niveaux d'excès de risque aussi faibles, alors ça allait avoir des conséquences assez sévères sur tout un tas de secteurs. Et j'avais écrit au ministre que la position générale de la DGS est que lorsque les éléments de connaissance sont suffisamment étayés et que les conséquences des décisions de prévention n'entraînent pas de bouleversement majeur, des recommandations d'application immédiate peuvent être formulées. Dans le cas contraire, ce qui était le cas, il y a matière à un débat qui ne concerne pas seulement les experts et les décideurs, mais l'ensemble de la société. J'ai donc proposé au ministre qui a longtemps été, quelques jours été réticent, d'aller au devant de la presse, de lui expliquer ça et de lui expliquer le Conseil national d'éthique ayant été saisi et Sicard ayant donné son avis, expliquer qu'on n'allait rien faire. À l'exception des hémophiles, parce que Edmond Luc et Henri m'avaient convaincu que pour eux, il fallait faire quelque chose, je vais y revenir. Je vous avoue que le ministre trouvait que cette abstention était dangereuse au plan politique, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et j'avais obtenu de suivre cette ligne de communication avec la posture suivante, qui était aller au-devant de l'opinion, lui expliquer les choses, lui dire « dans l'état actuel des choses, le principe de précaution nous conduit à l'abstention ». Maintenant, ça c'est l'amiante qui m'avait appris ça. Si vous pensez que cette position est trop laxiste, on ne sera pas buté, on peut la réviser. Donc s'en est suivi un certain nombre de propositions de décision qui avaient été évidemment longuement préparées avec l'AFSAPS notamment. Et en particulier, si on avait décidé d'informer les hémophiles qui avaient reçu des produits issus de ces dons, c'est parce que pour eux, il y avait une décision concrète à la clé qui était le choix de la source d'approvisionnement entre les produits d'origine animale et les produits d'origine humaine. Et le fait de savoir qu'ils avaient reçu un produit possiblement contaminé par le prion était effectivement un élément du choix, et Edmond Luc Henry m'avait convaincu que ce choix appartenait aux hémophiles eux-mêmes avec leurs praticiens prescripteurs et qu'il fallait donc les prévenir, les informer, et c'est ce qu'on a fait. Bon, ça a été la conférence de presse certainement la plus difficile et la plus longue que j'ai faite, avec Jean-Marin Bert à ma gauche, Edmond Luc Henry à ma droite, et elle a été très couverte, 24 heures. Tout le monde a oublié cette histoire-là, qui, moi, m'a hanté pendant des mois et des mois. Tout le monde l'a oublié. Mais y compris Jean-Yves Naud, qui n'avait pas la réputation d'être un tendre avec la DGS, que j'ai eu l'occasion de croiser, quand je lui reparle de ça, il faut qu'on remette cette séquence dans la tête des journalistes spécialisés dans le domaine de la santé publique qui l'ont oublié. Bon. Ce qui aurait pu être une énorme crise de sécurité sanitaire a donné lieu à une importante couverture de presse pendant 24 heures. On n'a reçu aucune lettre, aucune prise de position pour dire que c'était un scandale et qu'on était en train de sacrifier la santé des Français et qu'il fallait faire quelque chose pour ces 50 000 personnes potentiellement exposés. C'est exactement, ça me donne l'occasion de saluer François Monsotte, c'est exactement le même raisonnement et la même démarche, plus facile, cela dit, qui nous a permis à l'été 2000 de sortir de la crise de l'Erika. Je vous rappelle que les pouvoirs publics avaient été accusés de ne pas avoir informé notamment les bénévoles sur les plages qui ramassaient le fioul de l'Erika que celui-ci était cancérigène. Et on s'en était sorti grâce à l'Institut de veille sanitaire et l'INERIS et le RIVM hollandais qui avait mené ce qui reste encore aujourd'hui la plus grande étude d'évaluation des risques sanitaires liés à des pollutions environnementales jamais réalisée en France. Et cet été-là, nous avions ouvert 95% des plages polluées et il n'y a eu aucune plainte et aucune suite judiciaire sur le plan de la sécurité sanitaire en tout Je poursuis et je vais dans un stade supérieur de l'incertitude. On sait aujourd'hui fabriquer de façon industrielle des nanotubes de carbone. Par exemple, Michelin met des nanotubes de carbone dans les pneus. Alors c'est bien, maintenant c'est les pneus qui usent les routes, c'est plus les routes qui usent les pneus. C'est extraordinairement léger, c'est extraordinairement résistant. Et vous voyez, c'est quelques atomes de carbone assemblés quasiment chirurgicalement, un par un. C'est ça ce qu'on a. Voilà un exemple de nanotechnologie. Alors bien évidemment, les toxicologues, comme les épidémiologistes d'ailleurs, qui ont déjà étudié les particules ultra-fines, se posent un certain nombre de questions sur la toxicité de ces nanotubes. Et j'ai eu à traiter ça parce que j'anime une structure de débat public qui s'appelle le Nanoforum du CNAM, et dans lequel nous réfléchissons avec un certain nombre d'acteurs aux conséquences de sécurité sanitaire des nanotechnologies. Une des choses. Oui, d'ailleurs, bon, si ça vous intéresse, tout le matériel du Nanoforum est accessible sur le site de ma chaire au CNAM. Bon, un certain nombre, il y a 2 ans maintenant, quelques publications toxicologiques, publiées dans plutôt des très bonnes revues, sont venues dire que ces nanotubes de carbone induisaient sur des modèles tissulaires et animaux des lésions analogues à celles des fibres d'amiante. Et là, vraiment, la question, c'est, voilà, est-ce qu'on peut considérer que quelques publications scientifiques, c'est un niveau de preuve? Comment peut-on extrapoler d'une espèce à l'autre? Enfin, voilà, toutes ces questions-là. Les toxicologues nous ont expliqué que, oui, entre ce qu'on savait de la toxicité des nanoparticules et ce qu'on savait de la toxicité des fibres d'amiante, il y avait un certain nombre d'éléments communs qui concernaient la réponse inflammatoire, qui concernent l'activation du stress, qui concernent un rôle possible en fonction de la longueur des nanotubes de carbone, ce qui rappelle la même discussion pour l'amiante. Ce qui avec des possibilités que l'ADN soit touché. Bon, bref. Maintenant, en même temps, quand les toxicologues ont regardé ces publications, on voit bien que et les doses et les modèles utilisés et les voies d'injection sont pas immédiatement transposables. Oui, d'accord, mais enfin, avant qu'on puisse faire des études épidémiologiques chez l'homme exposé aux nanoparticules, vous voyez le temps qu'il va falloir. Donc comment est-ce qu'on traite ces signaux? On peut décider que, ah ben non, ce n'est pas un niveau de preuve et on n'en fait rien jusqu'à preuve du contraire. Ou bien on se dit, bah, peut-être que c'est l'inverse qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut considérer que les nanotubes de carbone sont dangereux jusqu'à preuve du contraire. Et là, on est dans une vraie problématique de précaution. Avec le fait que là, le risque n'est ni modélisable, il n'est pas mesurable, il n'est même pas modélisable. Là, on peut vraiment pas, c'est pas, on peut juste pas approcher la quantification de cela. On en a beaucoup discuté au Nanoforum du CNAM Et vous savez que la Commission nationale du débat public a organisé un débat qui n'a pas très bien marché l'année dernière et cette année sur les nanotechnologies. Et nous avons, l'équipe du Nanoforum du CNAM, coécrit une contribution à ce débat public. Et vous voyez, je trouve ça intéressant parce que plus il y a d'incertitudes et plus il fut discuté, en fait. Et ce document, qui était notre contribution officielle au débat public, il a quand même été cosigné de la Direction générale de la Santé, de la DGT, de la Direction de la prévention des risques au ministère de l'Écologie, de la Direction générale de la Recherche, la Direction générale de la Compétitivité, de la DGAL, du Centre d'analyse stratégique du Premier ministre et du secrétariat du Haut Conseil de la Santé publique. Merci Roger. Voilà. Et il y avait également des chercheurs, mais également, vous le verrez, des consultants, mais également France Nature Environnement et WWF. On a réussi quand même à ce que tous ces gens-là signent ensemble un texte de problématique qui explique ce qu'il y a de nouveau dans ce problème de sécurité sanitaire. Mon idée, c'était que dans cette situation d'incertitude, il fallait partager de l'information. Quand on n'a pas les éléments techniques d'analyse du risque, il faut au moins créer les conditions d'une confiance sociale autour de ces questions. Et donc, face à une situation d'incertitude, non pas avoir, d'ailleurs ça va nous amener à discuter justement les spécificités françaises, non pas avoir une position ferme, dogmatique, péremptoire, mais justement de rester ouvert, d'accepter l'incertitude, de reconnaître que oui, peut-être, il va y avoir des effets sanitaires indésirables, des nanoparticules à gérer. On n'en a pas la preuve, mais on n'a pas la preuve du contraire non plus. Donc il faut rester ouvert à ces hypothèses et discuter à ce moment-là de la gouvernance et des mécanismes de décision et des mécanismes de surveillance et de veille sanitaire qu'il faut mettre en œuvre pour que malgré tout, la santé soit aussi bien protégée que possible. Et la grande chose que dit ce texte que nous avons consigné, c'est qu'en fait, dans cette gouvernance, dans une situation de précaution, le jeu triangulaire habituel ne convient plus. Le jeu triangulaire habituel, c'est qu'il y a les pouvoirs publics garants de l'intérêt général, l'acteur économique et la force de proposition, et les experts qui conseillent et qui disent la science et la vérité. Il faut au moins faire rentrer trois acteurs supplémentaires là-dedans, c'est-à-dire tous les corps intermédiaires et les représentants de la société civile. Les corps intermédiaires, c'est par exemple les syndicats. Il y a également les élus et il y a également les associations œuvrant dans ce qu'on appelle communément la société civile. Et c'est au moins à cinq qu'il faut réinventer une gouvernance en situation d'incertitude et sortir de ce jeu triangulaire qui a rendu beaucoup de services tout au long du XXe siècle, mais qui ne permet plus de répondre à la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà trois cas brièvement présentés. Moi, j'en tire un certain nombre d'enseignements de ces cas-là. D'abord, c'est qu'incontestablement, dans notre société, la sécurité sanitaire est de mieux en mieux prise en compte. Jamais dans l'histoire d'un développement industriel, on a fait rentrer une discussion de sécurité sanitaire aussi précocement qu'on le fait pour les nanotechnologies. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Mais enfin, quand on voit ce qui s'est passé dans le domaine de l'amiante, on mesure quand même les progrès qui ont été faits. La deuxième chose, c'est qu'en aucun cas le principe de précaution n'est un principe de surenchère sécuritaire. Ne laissez jamais dire ça. On peut être précautionneux, je voulais, et avocat de la santé et avocat de la sécurité sanitaire, sans nécessairement recommander et prendre les mesures les plus sévères et les plus coûteuses. C'est totalement erroné d'écrire des âneries pareilles. Le principe de précaution, ce n'est pas le risque nul, ce n'est pas un principe antiscientifique, au contraire, et ce n'est pas un principe d'interdiction ni d'inaction. Il est sûr que plus on peut quantifier le risque, quitte à le modéliser, si on ne peut pas le mesurer directement, plus la gestion va être facilitée, parce que l'incertitude sera réduite, bien évidemment. Mais en même temps, quand on ne peut pas le faire, alors la place du débat social devient prédominante, parce que personne n'a la bonne solution. Et donc, il faut en débattre collectivement. Mais pour cela, il faut qu'il existe dans le pays quelque chose qui actuellement nous fait défaut, qui est la confiance, et ça m'amène à discuter des spécificités françaises. Alors, les spécificités françaises, en fait, il y en a beaucoup. D'abord, en Gaule, on a toujours eu peur que le ciel nous tombe sur la tête, donc on a un rapport avec le danger qui est certes un petit peu particulier. Et en particulier, j'ai bien dit danger et pas risque. En fait, on a une faible culture du risque. On a une faible culture de l'approche probabiliste des dangers. Et évidemment, quand on parle de précaution, cette faible culture du risque nous projette très vite dans une situation binaire de tout ou rien. Voilà. Et c'est ça l'enjeu. Il faut sortir de cette situation binaire de tout ou rien. Par ailleurs, dans la Charte de l'environnement de 2005, donc promulguée comme loi constitutionnelle, on cite souvent l'article 5, mais on oublie l'article 1. Et l'article 1, c'est quasiment le plus important. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La Constitution fait maintenant le lien entre environnement et santé, ce qui, pour le juge, crée une synonymie. Dès lors qu'on va parler d'environnement, on va parler de santé. C'est donc une des raisons qui explique pourquoi nous avons une conception si sanitarisée de la précaution. Je ne vous lis pas l'article 5, je pense que tout le monde le connaît, mais il mérite... Il y a une chose que mon collègue et ami avec qui je ne suis pas d'accord, François Ewald, dit. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il dit qui est juste. C'est que le législateur n'a pas réussi à définir le principe de précaution. Et vous voyez, on nous dit, lorsque la réalisation d'un dommage, blabla, les autorités publiques, je vais revenir là-dessus, veillent par application du principe de précaution. Ah bon ? Et donc, on applique un principe qui devrait être défini quelque part dans la charte. Il ne l'est pas. Donc, bon, et ça, j'ai bien vécu ça, puisque j'ai eu à donner au ministre la position de la Direction générale de la Santé sur ce texte-là, que nous avons soutenu. Et on avait bien vu le défaut logique du texte, mais ce qu'on nous a expliqué à l'époque, c'est que c'était le compromis qu'avait dû faire le président Chirac pour avoir la majorité des deux tiers au Congrès, sinon il ne l'aurait pas eu. Bon, ben voilà. Donc, du coup, ce texte a été soutenu par le ministre de la Santé. Et pourquoi nous l'avions, au niveau de la Direction de la Santé, soutenu ? Ben parce que c'était un appel à la science. Puisqu'on dit qu'en situation d'incertitude, ben la première chose à faire, c'est d'évaluer les risques. Ben oui, on avait appris à faire cela au cours des 10 années précédentes. Et donc, franchement, ça nous convenait bien. Et ce n'est pas anti-scientifique. C'est justement... Plus il y a d'incertitude, plus vous devez faire appel à la science. Ça nous convenait très bien. Vous remarquerez que ce texte dit bien que le principe de précaution est un principe de politique publique. Cela ne change rien, contrairement à ce qu'essayent de nous faire croire Bébéard et Attali. Cela ne change rien au droit civil et pénal de la responsabilité des opérateurs économiques. Rien. Donc, le texte est quand même extrêmement clair. Là-dessus. Mais voilà, on est en France. Et donc, on va s'engueuler. Voilà, spécificité française. Et on va s'engueuler de façon très manichéenne. Je vous donne un petit échantillon non aléatoire. Bon, d'abord, le problème va être politisé. Alors, j'adore montrer ces photos-là parce qu'elles parlent plus que n'importe quoi d'autre. Première affiche électorale de François Mitterrand, première élection présidentielle au suffrage universel après le référendum gagné par le général de Gaulle. On est en 1965. Mitterrand incarne les forces de progrès. Alors, excusez du peu, regardez ce que c'est que les forces de progrès. On est à côté d'un pylône, pas une petite antenne, hein, un gros pylône, beaucoup de champs électromagnétiques. Hein. Et regardez l'horizon, ça fume. Hein. Ah ben ça, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est le travail, c'est l'emploi, c'est le progrès, c'est la reconstruction du pays encore. Qu'on est loin de la précaution, là, ça c'est clair. On est très très loin de la précaution. Bon, Mitterrand, vous le savez, n'a pas été élu en 65, il a été élu en 81. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus clean, hein. Bon, il y a un petit peu de feu domestique, là, il y a une petite cheminée quand même. Mais alors, il n'y a plus de pylône. Déjà en 81. Mais je vous rappelle qu'en 2007, on a fait encore plus clean, de chez clean. Alors en 2012, je ne sais pas ce que ça va être. Ça m'inquiète parfois un peu parce que ça devient de plus en plus abstrait d'ailleurs, parce que l'activité humaine devient de plus en plus absente. Or, ces photos, moi je les trouve extrêmement. Je les regarde toujours très attentivement parce que vous savez sûrement qu'il y a des milliers d'heures de recherche derrière. C'est pas juste regarder comme je suis beau et lisez-moi, il y a ça. Hein. Dans la démocratie d'opinion, il y a ça. Mais ces candidats qui ont une chance d'être élus cherchent à incarner le centre de gravité du pays, évidemment. Et ça repose sur des études. Le centre de gravité du pays, il est là aujourd'hui. On verra ce qu'il est en 2012, mais aujourd'hui, il est là. Donc dans un monde, effectivement, où l'environnement est froid, glacé et d'une pureté abstraite, quasiment. Donc ça reflète l'évolution de la conception politique vis-à-vis des pollutions environnementales et d'une certaine façon, ça reflète notre image comme pays et comme nation. Alors bon, après, voilà, Bébéard, bon, on fait lire cet article à nos étudiants parce qu'il dit à peu près toutes les conneries qu'on peut dire sur le principe de précaution. Et voilà la violence, hein, la violence que suscite ce thème, alors qu'on est sur d'une grande complexité, que ça pose des problèmes extrêmement intéressants, à la fois du point de vue ontologique, à la fois du point de vue économique, sur les chances que nos enfants vont avoir dans ce pays, en même temps la santé qui est devenue une valeur cardinale de ce dont on ne peut que se réjouir, hein, évidemment. Au lieu d'avoir cette complexité-là, on a une traduction médiatique de cette complexité qui est vraiment très, très, très appauvrissante. Et alors, c'est d'autant plus violent, moi c'est ça qui me choque et qui m'énerve. C'est d'autant plus violent que les gens n'ont jamais été confrontés à des situations de précaution et qu'ils en parlent de façon complètement théorique. Comme si pour se faire entendre, il fallait taper très fort parce qu'ils n'ont pas l'expérience, en fait, pour en parler. Bon, Bruno Latour essaye courageusement de résister à ça. Voilà, encore cette année autour. Bon, regardez les modes d'expression de Monsieur Allègre sur le climat. Ce n'est digne ni d'un ancien ministre de la Recherche, ni d'un grand scientifique qu'il fut, ni d'un responsable public. C'est-à-dire que cette manière arrogante et péremptoire de traiter d'un enjeu énorme planétaire ne peut qu'appauvrir le débat. Donc oui, une pédagogie de la complexité plutôt qu'une démagogie de la simplicité. J'ai bien aimé cette formule. Alors, bon, pourquoi on en est là en France? Personne ne se pose la question. Pas un mot. Pas un mot là-dedans. Pourquoi en France le débat est devenu aussi violent. Ben, il l'est parce qu'on a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Tchernobyl, le sida, l'amiante, la vache folle, le Coca-Cola, le vaccin contre l'hépatite B, les OGM, les antennes relais, les champs électromagnétiques. Mais alors, bon, vous allez me dire, rien de tout cela n'est spécifiquement français, c'est vrai. Ce qui est spécifiquement français, c'est qu'on a eu tout ça. Il n'y a aucun autre pays que le nôtre qui a eu autant de difficultés de façon systématique sur ces questions de sécurité sanitaire. Hein? Bon. Sur les vaccins, par exemple, bon, les Anglais ont eu la rougeole, nous on ne l'a pas eu. Voilà. Bon. Rien de tout ça n'est proprement français. C'est cette accumulation et le fait que dès qu'il y a une difficulté... Écoutez, le médiateur, enfin, c'est quand même... Enfin, quand même, je... J'ai pas eu le temps de parler à Lucien Benaïm, mais lui qui a montré que les coupe-faim donnaient de l'hypertension artérielle pulmonaire, et on savait que le médiator se transforme en dexvenfluramine dans... Enfin, c'est, voilà. Donc, malgré les progrès, hein, malgré les progrès de sécurité sanitaire, il nous faut maintenir la pression. C'est évident qu'il nous faut maintenir la pression dans un pays comme la France. Je vous rappelle que le Conseil d'État a condamné... l'État en matière de transmission transfusionnelle du sida et que tout est parti de là. Toute la sécurité sanitaire est partie de là. C'est là-dessus que Didier Tabuteau s'est appuyé pour obtenir la création de l'Agence du médicament en 1993. Et c'est vrai que dans les attendus, le commissaire Le Gall, vous savez ce que c'est qu'un commissaire de gouvernement auprès du Conseil d'État, a dit cette phrase qui est terrible. Et qui elle est du précautionnisme. En situation de risque, une hypothèse non affirmée devrait être tenue provisoirement pour valide, même si elle n'est pas formellement démontrée. Ça, cette phrase-là, elle est terrible. C'est une vision absolutiste de la précaution. On ne peut pas vivre avec ça. Parce que, voilà, vous formulez n'importe quelle hypothèse et vous devez considérer qu'elle est démontrée jusqu'à preuve du contraire. Bon, ben, commençons par interdire l'automobile... Je ne parle même pas du tabac, évidemment. Enfin bon, et on va retirer à peu près tous les médicaments du marché avec un raisonnement comme celui-là. L'autre spécificité française, c'est que la justice est saisie de questions de sécurité sanitaire. Et ça, comme professionnels de santé publique, ça devrait nous poser plus de questions que ça ne l'est. Parce que je pense que si les citoyens se tournent vers la justice... C'est que le système de santé... Je vous dis ça juste pour être sûr de vous réveiller pour la discussion. S'il se tourne vers la justice, c'est peut-être que le système de santé publique ne leur offre pas des réponses satisfaisantes. Nous sommes le seul pays du monde... C'est pareil, tout le monde a eu des retombées de Tchernobyl. Nous sommes le seul pays du monde où la justice instruit des plaintes de cancer de la thyroïde liées à ces expositions. Reste à se demander aussi si la justice a des modalités d'expertise adaptées à la complexité des questions de sécurité sanitaire auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, dernière particularité française, nous sommes une société de méfiance. Toutes les études de sociologie nous montrent que nous sommes un des pays du monde où nous ne nous faisons pas confiance les uns dans les autres. Nous n'avons pas confiance. Le niveau de confiance interpersonnelle est bas et le niveau de confiance vis-à-vis des institutions est encore plus bas. Ce qui est d'ailleurs intéressant, il y a une très intéressante analyse du Conseil d'analyse économique là-dessus, c'est que les pays qui ont une bonne croissance économique aujourd'hui sont des pays à niveau de confiance élevé. Nous sommes très très bas en France, vraiment très très bas en France. L'Europe du Nord est une société où eux, ils se font confiance. Et ça, en santé publique et en sécurité sanitaire, je trouve qu'on ne réfléchit pas suffisamment à ça. Alors voilà, moi, ce que je pense, c'est que sur ce problème de précaution... Il y a des succès, il y a des échecs. Les échecs sont très nombreux. Bon, moi, j'ai encore récemment travaillé sur le dossier du chlordécone aux Antilles françaises. C'est affligeant, quoi. C'est affligeant la manière dont ces populations ont été traitées, quoi. On voit qu'à l'époque, quoi, dans les années 70-80, à quel point la sécurité sanitaire a été négligée aujourd'hui. Ce qui me fait dire que toutes ces spécificités françaises s'expliquent par un facteur commun, qui est que nous sommes dans une logique de rachat. Nous essayons d'effacer ces erreurs funestes du passé. Et voilà, et on ne sait pas le faire dans la finesse en France. On coupe les têtes des rois, on ne sait pas. On a des mouvements de balanciers extrêmement forts. Et oui, nous allons être sur un mouvement de balanciers hyper sécuritaire pour essayer d'effacer les échecs du passé. Bon, à nous d'accompagner évidemment ce mouvement qui nous est favorable. Ne laissons pas, moi c'est mon conseil, le balancier aller trop loin, parce que l'hypersécurité ne sera pas effectivement sans inconvénient, et voilà, trop de sécurité pourrait tuer la sécurité, il faut pas l'oublier. Je pense que sur les antennes relais, les jugements récents, notamment celui de février 2009, posent des problèmes. Regardez comment c'est formulé. Les plaignants ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire. Bon, on est à l'ISPED, donc vous apprenez, comme nous, à vos étudiants, qu'une hypothèse nulle se rejette ou ne se rejette pas et ne s'accepte jamais. Donc on ne peut pas démontrer l'absence de danger. Quand on entend un ministre dire « tant que les OGM n'auront pas fait la preuve de leur innocuité, je ne vais pas les autoriser », on se dit « mais qui il a comme conseiller ?» Qui lui fait dire une bêtise pareille ? Parce que démontrer l'innocuité de quelque chose, comme vous le savez, c'est impossible. Bon, en tout cas avec les méthodes épidémiologiques. Donc voilà, la précaution peut être utile et elle l'est beaucoup. Elle est parfois inutile. Elle est parfois nuisible, il faut le reconnaître. Toute la question est d'en faire un usage raisonné et un usage débattu. Et le vrai problème, c'est que nous n'avons pas de méthode. Voilà, c'est ça notre tâche. Plutôt que de dire le principe de précaution, c'est bien, c'est pas bien, c'est rassurant, c'est pas rassurant, nous n'avons pas de méthode pour guider l'application du principe de précaution. Reconnaissons-le et organisons-nous, c'est notre rôle de professionnel, pour fournir à la société, à nos responsables, des outils qui permettront de guider un principe, la mise en œuvre d'un principe aussi respectueux possible. Nous sommes dans une logique de rachat. À mon avis, c'est ça le point clé. Alors, est-ce que c'était ça le raisonnement du président Chirac? Est-ce que ce principe va rétablir la confiance ou au contraire, à cause des spécificités françaises, est-ce qu'il va multiplier les controverses dont les sociologues nous montrent très bien que plus il y a de controverses et moins il y a de confiance? Auquel cas, le principe de précaution, au lieu de rétablir la confiance, ne fera qu'accroître notre penchant naturel pour la méfiance. Pour terminer, et pour qu'on puisse en discuter, je citerai Ulrich Beck, qui pour moi est un des meilleurs intellectuels sur la question du risque, quand il nous dit « la rationalité scientifique sans rationalité sociale reste vide ». Mais la rationalité sociale sans rationalité scientifique est aveugle. Et Ulrich Beck est connu pour ses prises de position en faveur du principe de précaution, mais ce qui montre bien quand même qu'il y réfléchit comme philosophe, sociologue et scientifique, en fait, et pas juste d'une façon idéologique. Sûrement, que tout ceci nous montre bien que nous avons nous rentrons dans une période qu'on peut appeler la fin de l'insouciance. Ces travailleurs qui ont construit le Rockefeller Center dans la situation illustrée par cette photo, pour eux, le principe de précaution, c'est une théorie plus qu'abstraite. Donc nous arrivons, c'est la fin de l'insouciance, et entre vous et moi, faut-il vraiment le déplorer? Merci de votre attention.
Je voulais avoir votre avis, monsieur Dab. Vous avez évoqué justement le médiator, et quelle est votre analyse de la non-application d'un principe là qui était le principe de prévention? J'ai lu l'article, vous avez montré un article tout à l'heure de monsieur Dupuis, où il dit, enfin, c'était un intitulé en rouge, ici, lorsqu'on sait, on n'agit pas. Voilà, je voulais...
Je ne veux pas commenter un show, un dossier que je n'ai pas personnellement travaillé, parce que ce serait faire ce que je reproche à beaucoup de gens de faire, c'est-à-dire de ne pas se confronter à la réalité des dossiers et de prendre position. Les risques, ce qui est clair, et moi je ne travaille pas sur le médicament, mais j'ai vraiment en tête qu'à plusieurs reprises, quand j'en parlais et que j'en parle encore souvent avec Lucien Abenaïm, il voyait cela arriver. Alors, est-ce qu'il y a eu une sorte de cécité? Est-ce qu'il y a eu un jeu de lobby? Et voilà, c'est un laboratoire français, il n'y en a plus tellement. Donc il y a toutes sortes de considérations qui vont rentrer dans la ligne décisionnelle. Je ne sais pas, je n'ai pas eu à traiter ce dossier-là. Je ne sais pas comment l'AFSAPS a raisonné là-dessus, mais cette histoire-là sera vraisemblablement arrangée dans la colonne les échecs de la précaution. Donc, et ce que je pense que nous devons faire de plus utile, c'est à chaque fois aller décortiquer, mais pas superficiellement, mais en profondeur, les mécanismes décisionnels qui se sont appliqués pour en tirer des leçons.
J'ai bien apprécié que la personne précédente ait souligné ce fait. Quand on sait en France, on ne fait pas. Et moi, je dis, si, je crois que beaucoup de personnes dans ces instances censées nous protéger ne sont pas à l'écoute et ne voient pas comment interprètent ces nombreux scandales sanitaires français, comment la population les interprète. Si le principe de précaution avait été appliqué dans ces nombreux scandales, il y en a beaucoup que vous n'avez pas cités, mais nous les avons tous en mémoire, jamais il n'aurait pris de telles proportions. Donc ça met vraiment en cause ces institutions, puisqu'elles n'ont pas pris les mesures à temps. Il est très important, dès qu'il y a un doute, d'autres pays le font, pourquoi la France ne le fait pas? On a parlé du médiator, la France a attendu plus que quiconque pour l'interdire. Donc c'est quand même gravissime. Je reviendrai, j'espère, cet après-midi sur un prochain scandale sanitaire, parce que là aussi, quand on sait depuis des années, grâce à des scientifiques indépendants et à des études sérieuses, qu'il y a un risque pour la population et qu'on ne fait rien, comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'il n'y ait pas une crise de confiance? Je ne suis pas d'accord du tout avec la façon dont vous avez analysé cette crise de confiance, parce que pour moi, elle est bien réelle. Je tenais à vous le dire très sincèrement.
Non, mais il y a je le prends volontiers, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord et quelle analyse vous faites de la crise de confiance dans laquelle nous nous situons.
Parce qu'on multiplie, la France est championne d'Europe toute catégorie en matière de scandales sanitaires.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Oui, mais justement, pourquoi? Ce n'est pas normal. Les citoyens se posent des questions. Oui. Il y a des scientifiques qui donnent l'alerte.
Oui.
C'est généralement des scientifiques dont on met de côté. On entretient des contre-expertises par des scientifiques avec des liens d'intérêt pour faire traîner, pour éviter qu'on prenne des mesures, pour faire gagner du temps.
Oui.
Je peux vous donner des exemples, j'en ai de multiples dans de nombreux dossiers. On fait on retarde les mesures qui devront être prises, certainement un jour ou l'autre, et beaucoup le savent, pour gagner du temps pour l'économique. En fait, c'est l'économique toujours qui prime sur la santé de la population. Et ça, de plus en plus de citoyens en ont confiance et sont un petit peu révoltés de voir ça. Ils jouent le rôle de cobaye, on attend, il n'y a jamais assez de preuves. Quand des scientifiques rigoureux, consciencieux et indépendants donnent l'alerte, on ne les entend pas. Et ça, de plus en plus avec Internet, avec l'information, des citoyens s'en rendent compte et il ne faut pas être surpris lorsque ça remonte un peu jusqu'à vous, qu'il y ait véritablement une crise de confiance profonde.
Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Parce que, pour votre analyse de la crise de confiance, vous la mettez sur le compte du français qui est ceci, un historique. Ce n'est pas ça, c'est l'accumulation. 1, 2, 3, 4, 10, au 11e, au 12e, on est en plein dans une situation où on ne prend pas. Il y a d'autres pays qui prennent des mesures plus tôt que nous. Donc il y a quelque chose qui cloche. Oui, mais vous le constatez. Mais alors pourquoi ne fait-on rien? Il y a peut-être un problème. Peut-être faudrait-il prendre des mesures pour que justement ça cesse.
Mais je pense que c'est un problème compliqué, si vous voulez. Non, attendez. Je suis un défenseur du principe de précaution, mais il y a des chocs de valeurs dans notre société. Bon, on peut oublier l'état de déshérence dans lequel est notre industrie et notre économie. On aura un pays qui sera hyper beau sur le plan de la précaution, mais dans lequel plus personne travaillera. Je ne peux pas ne pas être sensible. Si, madame. On ne peut pas. Non. Je veux dire, je pense aussi, puis je l'ai touché du doigt à plusieurs reprises, parce que derrière tout ça, on peut dire, je le dis évidemment, par conviction profonde, la santé comme objectif premier, mais pas comme seul objectif. Ça, c'est pas possible. Pas comme seul objectif. Il faut garantir, il faut maintenir de l'emploi, il faut maintenir de l'activité économique dans ce pays. Sinon, ce sera comme la photo de Sarkozy. Ce sera un pays hyper beau, hyper vide. Non, je suis désolé, on ne peut pas. Vous voyez, je pense qu'on ne rend pas service à la précaution avec un discours aussi en faisant la seule valeur sociale qu'on doit défendre. Non. Ce n'est pas vrai.
Non, c'est la mettre à sa juste place. C'est pas un problème. Le chantage économique ou le chantage à l'emploi ou nos propres entreprises, il y a des pays qui ont une santé économique supérieure à la nôtre et qui ont beaucoup moins de scandales sanitaires. Donc ça, c'est pas un argument.
Par exemple,
on peut gérer mieux. Il y a des pays nordiques, il y a même l'Allemagne. Hein? Ils n'ont pas accumulé la quantité de scandales sanitaires qu'on a chez nous. Ça, c'est clair. Ouais. Hein. Donc...
Oui, je suis d'accord.
Donc, il y a quand même un problème. Les problèmes peuvent être gérés différemment, sans qu'on ne nous mette pas toujours en avant l'économie. On le sait, tout le monde, les citoyens ont du bon sens. Ils savent pertinemment que l'économie, c'est important aussi. Mais actuellement, la santé, elle est au plus bas. Elle passe toujours, trop souvent, après. Je crois qu'il y a un rééquilibrage nécessaire. Ce n'est pas la mettre peut-être à la première place, mais c'est en tenir compte et ne pas toujours prendre les citoyens comme des cobayes, puisque il faut attendre des statistiques ou des choses très, très graves, et peu importe ceux qui ont subi les conséquences, avant qu'on prenne des mesures. Ces mesures auraient été prises plus tôt, ça n'aurait pas mis en cause l'économie. J'en suis convaincue dans bien des cas.
Oui, non, mais ça, je vous rejoins là-dessus. Yeah.